Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Joël.
Bonsoir à toi.
Bienvenue dans votre émission féministe Y'a pas que le 8 mars. On ne peut pas toujours être jeune, c'est peut-être la devise de nos invités ce soir. Alors Joël, toi tu as invité Germaine Brasier pour le portrait. Bonsoir Germaine Brasier.
Bonsoir.
Et alors, de quoi parlera-t-on plus précisément dans ce portrait, Joël ?
Eh bien, dans ce portrait, nous allons voir comment, à partir d'une vie singulière, on peut décider à un certain moment de travailler plus au niveau collectif.
Très bien. Et nous recevons également en studio donc Paulette Mutin et Claudette Gadiolet. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vieille moi jamais, c'est le thème de notre dossier aujourd'hui. Paulette Mutin et Claudette Gadiolet, je suis venue vous voir au Club de la Ressouze, en pleine répétition du projet théâtral Vieille, moi jamais. C'était sous la direction de Christine Larivière, qui vous a guidé bien pour votre jeu théâtral. Vous vous êtes réunis, il me semble, de nombreuses fois pour travailler à la mise en place de la mise en scène de ce spectacle qui était en fait autour du thème du vieillissement au féminin. La représentation publique a eu lieu ce jeudi 24 mai, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé ?
Très bien, très bien. Le 25 mai à la médiathèque Césaire, mieux que la veille, mais enfin bon, non, Christine a été satisfaite, disons, et Aurélie, je crois, elle s'appelle aussi, donc... On a fait ce qu'on a pu, bien sûr, parce qu'on n'est pas des professionnels non
voilà,
plus.
C'est
mais
ça, c'était un tout début pour vous, c'était une première fois.
C'était une première fois. Mmh. Ouais, ouais.
Et comment ça, vous avez ressenti ? Ça a été, vous vous sentiez bien, à l'aise ?
Disons qu'au début, on se demandait comment ça allait aller.
Ouais.
Et après, on nous a demandé d'apprendre les textes. Alors, c'est quand même. Puis il y avait des musiques entre, il fallait bien démarrer. À la fin de chaque musique, enfin, il y avait. Ou à la fin de la répartie de la personne qui était avant. Donc, on a beaucoup répété, c'est vrai. Mm. Et la dernière répétition, c'est celle qui s'est la mieux passée. Donc, nous étions satisfaites. Maintenant, ouais. J'espère, enfin, le public a eu l'air content, voilà.
On en reparlera tout à l'heure avec Joël, qui vous a vu, il me semble. Du coup, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup de travail, ce projet. Et je crois qu'au cours des ateliers de travail, vous avez d'abord parlé collectivement de vos expériences personnelles. Et puis, Christine Larivière, qui a fait la mise en scène du spectacle, les a transposées en texte. C'est bien ça ?
Oui, 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 c'est bien ça.
Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les thèmes qui ont été abordés pendant les séances ? De quoi vous avez parlé ? Vous pouvez répondre.
Alors, en fait, c'était au départ des ateliers d'écriture. Donc, on devait écrire sur, par exemple, les cheveux blancs. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé. Et Christine a fait un mélange de tout ça entre ce qu'on avait écrit, ce qu'elle avait enregistré, donc nos paroles enregistrées, et puis elle a mis tout ça en scène.
Mmh. C'est ça ?
Oui, ouais. C'est ça, oui, oui. Un truc qui nous a le plus gênés, je dirais,
ouais.
C'est nous, à notre époque, on ne parlait pas des règles, vous voyez, ouais. C'était quand même, c'était un peu tabou, et là, elle nous a demandé de décrire la première fois, donc on l'a mis, mais après, il a fallu le dire,
ouais.
Donc ça, on n'avait pas trop envie, et puis bon, on nous a dit, c'est physiologique, et il n'y a pas de raison que ça ne se dise pas.
Ouais. Donc, mais on va y revenir, justement, ouais. sur cette partie un, ouais. peu plus, ouais. un peu plus délicate, je le sais, pour ouais. vous. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on écoute ensemble quelques extraits des répétitions, et puis qu'on réagisse un petit peu toutes, au fur et à mesure. Germaine Brasier, vous pouvez aussi réagir, il n'y a pas de souci.
Pourquoi cacher ses cheveux blancs ? Il faut bien admettre que les cheveux blancs, sauf exception, sont le signe que l'on n'est plus toute jeune.
Pourquoi faites-vous des teintures ? Elles ne correspondent pas forcément à la couleur originale de vos cheveux.
Moi, j'ai eu mon premier cheveu blanc à l'âge de 60 ans. Je me suis dit, tu vieillis. Là, j'ai fait des couleurs, car j'ai horreur des cheveux blancs.
Moi, j'ai commencé à avoir mes premiers cheveux blancs à 50 ans. Au début, j'ai fait des shampoings colorants. Mais ensuite, j'ai dû faire des couleurs.
Mais les teintures sont nocives pour le cuir chevelu et les cheveux.
Oui, mais je ne suis pas prête à garder mes cheveux blancs. Peut-être qu'il y a des effets négatifs. On verra plus tard. Pour le moment, je suis encore jeune. Et pour te répondre, Paulette, tu paraîtrais encore plus jeune si tu faisais des couleurs.
Alors, il faudrait effacer les marques du temps, les rides, les douleurs, la démarche parfois hésitante.
Alors, c'est marrant, moi je me dis, quand j'ai entendu ce texte, je me suis dit, mais en fait, à 20 ans ou à 70 ans, on a pratiquement les mêmes préoccupations, notre coiffure, entretenir notre corps, en fait, ça s'arrête jamais en fait.
C'est vrai.
On sera embêté jusqu'à la fin de notre vie à faire attention à notre coiffure, à paraître bien, l'apparence en fait.
C'est normal.
Normal ?
C'est normal.
Ouais.
C'est vrai qu'hier, j'ai montré la vidéo à ma fille, qui a 40 ans, et elle m'a dit, mais je m'y retrouve aussi là-dedans.
Mmh. Bah oui, c'est assez intemporel, en fait, comme préoccupation, je trouve.
Le temps qui passe.
Oui, oui.
Bah, pour moi, mon premier cheveu blanc, j'avais 25 ans, et ça n'a pas été le premier, ça a été vite les suivants. J'appartiens à une famille où les femmes blanchissent très vite. Et c'est vrai que je n'ai pas gardé mes cheveux blancs et que je ne les garde encore pas, alors que ma fille a des cheveux blancs. Elle a un peu plus de 55 ans et elle se trouve très bien avec ses cheveux blancs. Et moi aussi, je la trouve très bien, mais moi, je ne peux pas.
Mais alors vous, Paulette, vous dites, il me semble que c'est vous qui dites dans le texte que vous les aimez, en fait, vos marques du temps.
Oui, 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 mes cheveux blancs ne me gênent pas. Moi, j'ai eu des teintures pendant presque 20 ans. Et un jour, j'en ai pris marre. J'ai dit stop, je vais arrêter. Alors, le plus difficile, c'est quand les cheveux blancs repoussent, parce que jusqu'à ce qu'ils soient tous de la même couleur, il faut un certain temps. Mais c'était un choix. C'est un choix, j'en ai eu marre de me faire teindre, et voilà.
Et vous, Claudette, c'est plutôt. Vous êtes pro-couleur.
Je me suis posé la question, souvent, mais je ne suis pas arrivée à franchir le pas.
Oui.
J'ai eu des cheveux blancs tardivement, quand même.
Oui. Et ça vous a fait quoi, en fait, vos premiers cheveux blancs ?
Rien.
Rien ?
Rien.
Et vous, Germaine ou Claudette, ça vous a fait quoi, vos premiers...
Moi, je n'étais pas étonnée parce que c'est dans une trajectoire familiale.
Oui.
Bon, ben voilà, il y a la couleur. Si on ne veut pas les garder, on peut y remédier. Puis c'est tout. Mm.
Et vous, Paulette ? Le premier ?
Le premier cheveu blanc, ça a été, mais j'habitais pas ici. Et à l'époque, mon coiffeur me disait toujours, il faut vous faire des teintures. Et vraiment, j'étais pas pour. J'en avais quand même pas beaucoup. Et un jour, j'ai un de mes petits-enfants qui devait avoir, je sais pas, 8-9 ans, il me regarde, il me dit, oh, mais t'as des cheveux blancs. Ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, que le gamin me le dise, vous voyez.
Ouais.
C'est à partir de ce moment-là que je me suis fait faire des teintures.
Ouais, donc c'est quand même lié au regard de l'autre, finalement.
Voilà. Mm. Mais maintenant, de toute façon, ils sont grands.
Ouais. C'est peut-être l'autre qui vous fait vous dire, bon, j'ai un certain âge, en fait.
Voilà, mais j'étais quand même, je vous dis, ça fait une vingtaine d'années. J'étais quand même beaucoup plus jeune que maintenant.
Ok, on va continuer à vous écouter.
Merci de m'avoir invitée, mais ça gêne quelqu'un que je sois toute seule ?
Non.
Parce qu'on a l'impression que comme on est toute seule,
on nous invite pas.
Elles disent, on va t'inviter.
Oui, il faudrait qu'on t'invite.
Ou il faudrait qu'on t'invite, ouais.
Elles t'invitent pas.
Elles
ont tellement la trouille qu'on leur pique leur mari.
Pour les gens, être un couple, c'est normal. Si t'es pas un couple. Si t'es pas en couple, c'est louche. Les gens, ils nous disent, et puis, tu t'es jamais remarié?
Tu n'entres pas dans le moule.
Et si tu rentres pas dans le moule? C'est louche. Je rencontre plein de gens, des couples que je voyais quand Joe, il était encore là. On s'attendait très bien. Il n'y avait pas d'ambiguïté. On était simplement amis entre couples. Tout le temps, ils me disent « Ah ben, faudra bien qu'on se fasse un truc !»
Et ils le font pas.
Ça fait plus de 2 ans.
Quand t'es invitée avec 3 couples et que tu es la seule célibataire, tu te sens mal. On te regarde d'un air.
Tiens, mets-toi en bout de table. T'es bien là, hein ?
Ah bah, bien sûr.
C'est tout à fait ça.
Pourquoi elle a trouvé personne, celle-là? Elle doit être un petit peu...
Un petit peu...
Un petit peu...
Un petit peu, un petit peu quoi?
J'ai appris par une... Attends.
C'est vrai que moi, ça
m'a marqué. Truc, mon bout de temps, t'es bien?
Oui.
Voilà, c'est les femmes célibataires, c'est au coin. Mais alors ça, c'est pareil, en fait. C'est pareil à 30 ans, quand on est célibataire, pas marié. C'est un peu louche, comme vous dites. Hein. Mais du coup, à 70 ans, c'est pareil. Être une femme seule, ça a l'air d'être aussi un peu mal vu, un peu compliqué.
Tout à fait, oui, oui. Mais c'est ce que je dis dans ce qu'on m'a fait dire dans le texte, et c'est ce que j'ai dit avant, que quand on est invité avec des couples, on se sent très mal.
Ouais.
Parce que... On a l'impression de ne pas être comme tout le monde, en fait, vous voyez, de pourquoi on n'a pas retrouvé quelqu'un, pourquoi on est tout seul. Alors qu'en fait, on gêne personne, autant que je sache, c'est vrai.
Ah bon?
Et puis, je pense que c'est aussi un choix. Moi, si j'avais voulu retrouver quelqu'un, j'étais seule, j'avais 42 ans. Donc, si j'avais voulu retrouver quelqu'un, je pense que j'aurais pu. Mais c'est un choix personnel. Mmh. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que de ce côté-là, les gens respectent un peu. Simplement que, comme il est dit dans le texte, on ne rentre pas dans le moule. Parce que le moule, c'est d'être à deux. Mmh. Si vous n'êtes pas à deux, c'est pas normal pour certaines personnes. Je ne veux pas dire pour tout le monde. Mmh. Mais c'est vrai que les couples vous invitent rarement.
Ouais. Et c'est vrai que choisir d'être une femme indépendante, ça peut être mal vu.
Peut-être,
coup.
Oui, parce qu'ils doivent penser qu'on a un trop fort caractère et je ne sais pas.
C'est ça, une femme qui a un fort caractère.
Et voilà.
Alors moi, j'ai un mari. J'étais la seule dans l'eau.
Alors là, vous ne faites pas partie de la grande majorité. Hein.
Voilà, vous êtes hors norme.
Voilà. On a plein d'amis qui sont seuls et ça ne nous pose aucun problème. On les invite... sans souci.
Régulièrement, il n'y a pas ces histoires de jalousie qui sont
pas du tout
relatées dans le texte.
Non, samedi, on avait on dansait pour une fête et une de nos copines là m'a ramenée à la maison. Je lui dis écoute, tu manges avec nous. Voilà, elle a mangé avec nous.
Mais c'est assez surprenant quand même, c'est quand j'entendais ces histoires de jalousie des couples envers les femmes célibataires, je me disais...
Je ne sais pas si c'est de la jalousie.
Ouais.
Je ne sais pas.
Je pense que si, quand même. Il y a une petite forme...
Je ne suis pas sûre.
Une petite forme de se dire, elles sont toutes seules, elles doivent draguer tous les hommes qui passent à proximité. Je suppose que... en parlant... Mais je pense qu'il y a ça, peut-être. Sûrement, et je ne suis pas la seule, on est plusieurs à réagir comme ça. Je ne sais pas si vous, mesdames, vous êtes toutes seules aussi, mais je ne sais pas comment vous y ressentez, mais...
Non, moi je ne suis pas toute seule, mais je me souviens de ce que ma belle-mère me disait, qui a été veuve assez jeune, et elle me disait, quand on part en voyage... on ne nous met pas, comme vous disiez, simplement au bout de la table, mais on va toujours nous dire qu'on peut très bien dormir avec d'autres personnes. Donc elle dit, ça c'est incroyable, impossible de partir en voyage et d'avoir sa chambre seule.
Oui, ou alors avec un gros supplément.
Un gros supplément,
voilà.
Avec et supplément, des plus vilaines chambres que les autres, en général.
C'est ce qui est, c'est ce qui
souvent.
Est arrivé, là.
Elles sont très très moches, les chambres.
Du coup, ça doit quand même participer à un sentiment d'exclusion pour vous.
Un peu, mais enfin, moi, je passe au-dessus. Hein. Moi, ceux qui ne veulent pas me recevoir, ils restent. Vous voyez, moi, c'est mon point de vue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça.
Bon, moi, tu peux venir à la maison.
Oui, je sais.
Bon, on va sortir nos agendas.
Oui.
Et vous avez la sensation que c'est pareil pour les hommes célibataires?
Alors ça, j'ai aucune idée. Mais je pense qu'un homme célibataire, il a moins tendance à sortir, comme dans les voyages organisés, par exemple. On voit quelquefois des femmes seules.
Beaucoup.
Des hommes seuls, c'est très, très rare.
Ah oui?
Très, très rare.
Comment vous l'expliquez, ça?
Je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas.
Je pense que les femmes ont plus envie, au moment de la retraite, d'aller à l'extérieur, de voyager.
Peut-être.
Enfin, à ce que je vois dans les bus que je vois passer, il y a beaucoup plus de femmes qui sont tentées par les voyages de femmes d'un âge...
D'un certain âge.
D'un certain âge que les messieurs. Ils restent plus entre eux, à jouer aux boules, à faire des choses, mais pas loin de chez eux, je trouve. Enfin,
ah, mais il y a beaucoup plus de femmes seules que d'hommes seuls.
Mais c'est une affaire économique, ça aussi, hein, de taxer les personnes seules.
Les chambres seules sont épouvantables, où elles sont toutes petites, ou logées sous les toits, ou vraiment moches, quelque chose, alors qu'elles payent 80 à 100 euros de supplément pour même pas une semaine, quoi. Je veux dire, ça devrait être au contraire une chambre plus jolie. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'il n'y a qu'une paire de draps, il n'y a qu'une douche au lieu de deux. Y a... Mais ça doit moins rapporter au niveau restauration, je pense.
Ouais. Voilà. Oui, je pense qu'il y a une raison
économique. C'est là-dessus.
Du coup, économiquement, c'est aussi compliqué d'être une femme célibataire.
Eh bien, aussi.
On va peut-être rester dans la thématique du couple. Il arrive parfois qu'une femme soit en couple avec un homme qui est plus jeune qu'elle. Vous en avez parlé, on les appelle les cougars. Mais en fait, il n'y a pas de mot équivalent pour les hommes.
Non.
Alors, j'ai cherché sur Internet, c'est les pumas.
Ah oui.
Ah. Bon. Voilà. Comment appelle-t-on un homme cougar? Sur Google, ils mettent puma.
Ah oui. Ah, c'est marrant, je ne savais pas. On va vous écouter.
Un homme divorce pour partir avec une femme plus jeune. Souvent.
Souvent.
Souvent. Et une femme divorce pour aller avec un homme plus jeune.
C'est rare.
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 Pourquoi?
Parce que c'est une cougar. C'est quoi une cougar? C'est une femme qui séduit un homme beaucoup plus jeune, souvent de la génération de ses enfants.
Ah! Je croyais que c'était une bête sauvage.
Une mangeuse d'hommes.
On appelle des femmes des cougars. Et pourquoi on n'appellerait pas les hommes des cougars?
Parce que les femmes ont tous les hommes ont tous les droits.
Oh, oh!
Les hommes qui vont voir ailleurs, on en parle beaucoup moins que les femmes qui vont voir ailleurs.
Les hommes ont tous les droits.
Tous les droits. Et c'est pas aujourd'hui que ça changera.
Si, ça change.
Ça change un petit peu. Ça deviendra normal en 2045.
On n'y verra pas.
Alors, Paulette et Claudette, les hommes ont vraiment tous les droits?
Disons que
difficile à dire.
Ouais, par rapport à la société, si un homme a... dirons-nous quelques maîtresses en dehors du mariage, il est considéré comme, pas par tout le monde, mais
Volage,
je veux dire, on dit, celui-là, il a la virilité. Par contre, si c'est une femme qui, malheureusement, va ailleurs, là, je veux dire, j'emploierai un gros mot, on la traite pas de putain, mais tout de suite après. Donc ça, c'est... Mais c'est peut-être en train de changer aussi maintenant, je pense, les mentalités changent.
Tout doucement,
je pense.
Ça dépend vraiment des milieux, oui.
Oui, je pense aussi que ça doit changer.
Oui, mais c'est vrai qu'à l'âge de notre jeunesse, un homme qui avait plusieurs amours, disons, c'était un bon coq, et puis une fille qui en avait plusieurs, c'était une fille perdue, quoi. Voilà. C'est certain. Ouais. Mais je pense que les choses sont moins tranchées maintenant, me semble-t-il.
Oui, je pense un petit peu, mais malgré tout, je pense que ça persiste quand même, hein, ces stéréotypes de genre, parce que...
C'est la virilité, quoi.
Oui, puis c'est vrai que, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, il n'y a pas d'équivalent pour des mots comme putain, salope. On n'a pas ces équivalents-là au masculin.
Il y a gigolo, hein.
Oui. C'est encore pas tout à fait la même chose.
C'est un petit peu gigolo. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on entend les jeunes qui parlent, moi je travaillais avec des jeunes, là, et si une fille est habillée, par exemple, un peu court ou un peu voyant, elle se fait traiter de pute, quoi. Ou si, par exemple, elle sort avec quelqu'un, mais qu'elle parle avec quelqu'un d'autre, eh bien, voilà, les copains vont avoir l'œil et vont la traiter de pute. Donc, c'est pas encore fini, ça. Oui, mais vous dites en combien?
En 2045.
Ça va.
Mais oui, c'est vrai que même une femme qui a une sexualité épanouie et qui a plusieurs amants, etc., qui a une vie sexuelle épanouie, bien souvent, elle peut passer pour... Enfin, on va la traiter de tous les noms d'oiseaux, alors qu'un homme, c'est la normalité, en fait. C'est logique, quoi, pour eux. Et alors, en parlant d'hommes, il y a aussi les hommes célibataires.
Je ne connais pas d'homme qui vit seul. Vous en connaissez?
Ouh, j'en connais un. C'est mon voisin. Il est vieux garçon. Il a des idées bien à lui. Il ne comprend pas toujours les choses de la vie de famille. Il va fêter ses 70 ans et il m'a invité. Il s'habille un peu négligé. Il n'a aucun goût. Ses chemises, il ne les repasse jamais.
Moi, je connais un homme. Il a 82 ans. Il a des tenues plutôt un peu débraillées. Il a tendance à se laisser aller. Et chez lui, c'est plutôt négligé.
Moi aussi, je connais un homme qui vit seul. Il s'appelle Richard. Il a 70 ans. C'est mon voisin. Par contre, il est très bien habillé, très bel homme, très gentil. Tous les 3 mois, part en Thaïlande. Bizarre. Mais très bel homme.
Vous n'avez pas dit ce qu'il allait faire en Thaïlande. Parce non, que c'est sous-entendu, mais il n'y a rien qui est dit.
Non.
Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris.
Non, vous avez bien compris. Ça devait être volontaire.
Non, mais on ne sait pas.
On ne sait pas.
Ah oui, alors moi, je n'avais même pas pensé à ça, tu vois. Je n'avais pas compris la référence.
Ah, ben le public a tout de suite compris.
Ah oui.
Ouais. Ah oui, oui.
Alors du coup, moi, dans ce texte-là, je me dis, mais en fait, la séduction, c'est encore vachement important.
Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi un homme seul, pas toujours, hein, parce qu'on en connaît, qui sont très bien habillés, impeccables et tout, mais il y en a plusieurs qui se laissent aller. C'est vrai, les chemises par passé, ou alors quelques taches par-ci, par-là, ou vraiment, pourquoi? Je ne sais pas. Une femme, c'est plus rare.
Mais je veux dire...
Non, mais même dans le couple, enfin, un homme fait moins attention à sa tenue. Il y a la femme derrière qui lui dit, ben non, tu devrais mettre ça aussi.
Oui, mais c'est vrai que du point de vue de certaines personnes plus jeunes, on pourrait se dire, oh, bah, passé un certain âge, on s'en fout, on ne fait plus attention à sa tenue, à sa petite toilette.
Et bien pourquoi?
Bah, je ne sais pas. C'est un préjugé.
Oui, c'est vraiment un préjugé parce que je ne vois pas pourquoi, parce qu'on prend de l'âge, qu'on se soignerait pas, qu'on se tiendrait pas comme il faut, coiffé, habillé, lavé, bien entendu. Je ne vois pas pourquoi.
Mmh. Pour les autres, mais pour soi.
Oui. Pour soi.
Pour soi.
Pour s'acheter des vêtements qui nous plaisent, qu'on trouve qui nous vont bien, même si peut-être certains trouvent que ça va moins bien. Mais enfin bon, peu importe. Mais moi, j'y trouve tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi une personne de 90 ans ne serait pas coquette, bien habillée, bien soignée. Mmh. Alors que des fois, vous en voyez qui ont 20 ans, je ne vais rien dire, mais enfin...
Là, oui, c'est bien la relation à soi. Hein. C'est la relation à soi.
Oui.
Même, enfin, donc du coup, moi, je pense toujours aux jeunes, parce que c'était quand même... J'ai vécu beaucoup avec des jeunes. Et quand les garçons leur disaient, oui, mais enfin, si tu te maquilles, les toutes petites jeunettes, hein, quand elles avaient, je ne sais pas, 13, 14 ans, ouais, mais si tu te maquilles, c'est pour te faire... C'est pour, pour draguer.
Ah, oui.
Et les filles, assez souvent, disaient, ben non, moi, je me regarde dans la glace et je m'aime bien comme ça. Donc, en fait, c'est se plaire à soi, ouais. Déjà. Et
se faire plaisir aussi.
Se faire plaisir et visiblement, ben, tout au long de la vie, quoi.
Ouais.
Bah, pour moi, 13 ans, c'est trop jeune pour se maquiller, personnellement. Hein, c'est mon avis personnel. C'est trop jeune. 15 ans, passe encore, 13.
Oui. Non, mais maintenant, elle se maquille très jeune.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et moi, il y a une question que je me pose aussi, c'est est-ce que c'est compliqué de rencontrer des hommes quand on est célibataire?
J'ai jamais cherché. Voilà, le problème. C'est que je ne voulais pas. Ouais. Et voilà, peut-être que je n'étais pas plus moche qu'une autre, j'en aurais peut-être trouvé un. Mais enfin, bon, voilà. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéresse toujours pas, d'ailleurs.
Ouais. Et les retours que vous avez peut-être d'amis qui sont célibataires et qui cherchent, pour le coup?
Ben, il y en a qui trouvent. Hein. Je ne sais pas s'ils cherchent bien longtemps.
Ouais. Et on les rencontre où, alors?
Dans l'été dansant.
Ouais.
Non, mais je vous le dis.
Essentiellement, oui.
Essentiellement. Parce que j'ai un cousin qui s'est retrouvé seul et il a retrouvé quelqu'un dans l'été dansant. Il n'est pas le seul non plus.
Ouais.
Ouais.
Et ça se passe comme quand on avait 20 ans ou pas du tout?
Ah, ça, je ne leur ai pas posé la question, simplement. Si vous voulez, ils gardent en général chacun leur appartement. Mm. Hein, et ils vont dans l'été dansant. Ils vivent souvent ensemble la journée. Ils ont la nuit peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, ils ont chacun leur appartement quand même, ce qui est très bien. Et ils sortent, ça leur permet de sortir ensemble, Moi, mon cousin, il n'a jamais été aussi heureux que maintenant, vous voyez, parce qu'il a gardé sa femme malade très longtemps, donc évidemment, il ne pouvait pas sortir. Maintenant, il a trouvé quelqu'un pour... Et il va fêter ses 80 ans. Il les a eus, d'ailleurs.
Et alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites, le fait que les personnes aiment bien garder leur chez-soi.
Oui, parce qu'ils ont leurs habitudes.
Ouais. Et le problème, c'est si un jour, ça ne va plus,
voilà.
Pour X raisons, ils ont leur appartement, leurs meubles, ils ont tout. Et si, quelquefois, avec les enfants du conjoint, ça ne se passe pas forcément bien, donc moi, je connais des gens qui quand ils invitent leurs enfants, ils ont dans leur maison où ils sont, et autrement, si ça se passe bien, bien sûr, mais ce n'est pas forcé.
Ouais, mais je me dis quelque part, on s'affranchit en fait peut-être avec l'âge du modèle justement d'être en couple, de rester dans le même logement, etc. En fait, on craint moins peut-être l'indépendance en fait finalement.
Ça, je sais pas.
On reste chacun chez soi mais et on se
voit la
journée.
C'est vrai que les personnes qui se remettent entre guillemets en couple, qui sont seules depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, parce qu'on en a qui se trouvent quelqu'un à 80 ans, ils ont leurs habitudes et ils ne supporteraient pas quelqu'un 24 heures sur 24. Par contre, ils se retrouvent tous les deux pour sortir, pour discuter,
pour les bonnes choses.
Ils ne sont pas seuls.
Ouais. Ouais, c'est un peu ça aussi, un petit peu ce côté solitude. Ouais.
Et je pense qu'il y a aussi des rencontres qui se font dans les maisons de retraite.
Aussi, ah oui, aussi. Oui, bien sûr. Oui, aussi.
C'est vrai.
Ah ouais. Mais c'est bien.
Bien c'est sûr.
Moi, j'ai le souvenir de ma vieille marraine qui avait 90 ans et qui me parlait toujours de Monsieur Jean. Alors, un jour, je dis au gériatre, écoutez, moi, je ne vais pas vous faire une demande en mariage pour ma marraine. Mais si un jour vous entendez... Monsieur Jean et ma marraine demandaient un logement pour deux personnes. Vous n'hésitez pas. Alors, il me dit, oh, ça, il y a 10 ans en arrière. Et, oui, même 15 ans en arrière. Oh, qu'est-ce que je suis sotte? Non, c'était en 95, ça fait plus que ça. Et il me dit, oh, ben alors vous, j'ai au moins une fois par mois des enfants qui sont complètement scandalisés parce que leur vieux papa ou leur vieille maman vient de trouver une amitié amoureuse dans la maison de retraite. Mais pourtant, c'est bien comme ça qu'il faudrait faire.
Bon, alors, c'est peut-être pas une relation amoureuse, c'est de l'affection.
Ben oui, mais peu importe.
Mais c'est bien.
Mais de la part des enfants, c'est de l'égoïsme.
Mais de la part des enfants, c'était scandaleux pour beaucoup.
C'est de l'égoïsme de la part des enfants. Ils se figurent que leurs parents en maison de retraite, je peux vous en parler, j'ai travaillé 25 ans en maison de retraite, je sais ce que c'est. Donc les enfants se figurent que leurs parents ils finissent leur vie, ma foi, pourvu qu'on leur donne à manger, qu'ils aient de quoi s'habiller, voilà. Bon. Et il faudrait qu'ils restent comme ça. Mais
les besoins primaires, oui.
Voilà. Pourquoi, s'ils ont une affection avec mais quelqu'un, pourquoi les dernières années de leur vie, on leur enlèverait cette affection? C'est pas normal.
Oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'on... On retire un peu la personnalité en fait des gens avec l'âge. Et moi, je vous avoue que le fait de venir vous voir, eh ben, ça m'a fait prendre conscience de ça parce que c'est vrai que une de mes grand-mères, ne sort plus, n'a plus d'activité. Du coup, je me suis dit quand on vieillit, on a plus de personnalité en fait, on n'est plus la même personne. Et en vous voyant, je me suis dit, non en fait, tu resteras toujours la même femme avec le même caractère, en évoluant, mais avec quand même la même personnalité, les mêmes envies, des choses à faire. Donc merci pour ça.
C'est pour ça qu'il y a les clubs.
Vous savez, votre grand-mère, je ne sais pas quel âge elle a, mais Janine, qui a fait les sketchs avec nous, elle a 82 ans et c'était la première fois qu'elle faisait du théâtre. Et elle s'en est bien sortie.
C'est extraordinaire de voir ça. Ça me touche, quoi. Bon, on va finir sur ce sujet avec un sujet bien tabou qui a fait débat au sein de votre groupe de répétition.
Ouais.
Allez, on écoute le texte.
Alors je vais vous dire un truc à ce sujet. J'espère que ça choquera pas les gens.
Oui, moi, c'est ce que je disais l'autre jour aussi.
Parce que c'est peut-être des trucs qui vont choquer parce qu'à notre époque, les gens qui sont ici, ils ont notre âge. Et c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas.
Ça va choquer certaines personnes.
Donc,
on essaye. Mais moi, je pense qu'il y a un moment où il faut leur changer.
Non, parce que nous, on a été conditionnés comme ça, si vous voulez.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a des choses qui restent, malgré tout.
Moi, je pense que ça, c'est pas bien.
Enfin, à mon avis, mais c'est pas moi qui...
Ben, c'est ce que je disais.
Oui, ce qu'on va faire, on va peut-être le lire déjà.
Oui, mais il faut...
Oui, oui, mais bon, j'y ai pensé chez moi.
Ceux qui sont là, c'est des gens de nos âges qui ont vécu un peu...
Comme nous.
Comme nous, il y a 50, 160 ans en arrière, et je pense que ça va les choquer.
Moi, je pense que ça fait partie de la vie.
Oui, hein, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, oui.
Ah, mais nous, on en parle, nous savons
pas. Oui, mais je pense que...
Non, moi, ça ne me fait pas. Mais moi, ça ne me choque pas. Je pense que ce sont ceux qui vont écouter, que ça va choquer.
C'est ça.
Moi, ça ne me choque pas. Ça fait rire en même temps, donc c'est pas
quelque chose de... Et puis c'est la vie, il faut accepter.
Oui,
bon,
oui,
mais... Moi, je pense. Est-ce qu'on fait la lecture? On va voir le retour d'Alicia.
Voilà,
déjà,
elle va nous
connaît
dire.
Pas, elle va nous dire.
Oui, mais elle est jeune, elle peut pas comprendre ces choses-là.
Vous pouvez pas vous mettre dans...
Moi, c'est vrai que personnellement, j'en parle comme ça, mais c'est pas une chose que je parle.
Ah ben non,
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 non, non, non, non, non, non,
parce qu'on est comme ça, on a été élevé comme ça.
Tu sais, comme les obsèques, c'est comme les trucs.
Mais les obsèques, je m'en fous, ça.
Les obsèques, je m'en fous,
c'est pas la même chose. Ça sort pas de l'intime. C'est pas, ça, c'est un peu un truc intime, ça. C'est des choses.
Allez, on y va.
Mes premières règles, oh, je m'en souviens très bien. C'était le 11 mai 1956. J'avais 12 ans et 2 jours. C'était le lendemain de ma communion solennelle. J'avais mal au ventre. Sans doute le repas de la veille qui n'était pas bien passé. Eh bien, non. J'étais devenue grande fille, comme m'a dit ma mère.
Moi, j'avais 12 ans. J'étais en vacances chez les beaux-parents de ma sœur. Heureusement qu'ils avaient une fille un peu plus âgée que moi, à qui j'ai pu me confier, et que ma cousine, qui avait mon âge, m'en a parlé peu avant, car je ne savais pas ce que c'était. Ma mère ne m'en avait jamais parlé. Quand je lui posais des questions, elle me disait toujours « Quand tu seras grande, tu sauras ». Eh bien, j'ai su. J'ai jamais su.
Moi aussi, j'avais 12 ans. Nous étions dans l'appartement à Lyon, ma mère, ma sœur et moi. Ma mère m'a dit « Tu feras attention aux hommes maintenant ». Moi, c'est au mois d'août 1951. J'avais 12 ans. Aussi, j'avais 12 ans aussi, point. Heureusement que j'avais une copine plus âgée que moi qui m'avait dit ce qui allait m'arriver. Ma maman avait parlé n'avait parlé de rien. Ensuite, j'étais réglée comme du papier à musique, toutes les 4 semaines à la même heure.
En plus, c'est bien précisé, à la même heure.
À 42 ans, tout a été fini. Tant mieux.
La ménopause, c'est comme ça. Quelques bouffées de chaleur et la transpiration.
Bon débarras.
Alors, finalement, les réactions du public.
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ont amusé. Donc, moi, je dis que c'est le vendredi 11 mai 1956. Bon, c'était une date précise, puisque j'avais eu 12 ans le 9 mai. J'ai fait ma communion le 10 mai, c'était le jour de l'Ascension, et paf, le lendemain. Voilà. Donc, c'est vrai que ça amusait un petit peu. Et puis, Monique aussi, lorsqu'elle dit qu'elle était réglée toutes les 4 semaines à la même heure. C'est deux choses qui... Je ne sais pas si les gens ont vraiment cru. Mais c'est ça, exactement.
Là, les gens pas de gêne, vous n'avez pas senti de gêne finalement.
Non.
Et vous alors, comment vous êtes sentie?
Finalement, ça ne m'a pas posé de problème.
Ouais.
Non, moi non plus. Au départ, c'est vrai que quand vous avez enregistré le truc là, c'est vrai qu'on se disait quand même parler de ça devant des gens de notre génération, je m'entends, et qui ont connu les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'on ne nous disait rien et voilà. Et puis finalement, on s'est pris au jeu. Et puis, je ne pense pas que ça ait choqué. Ça n'a pas choqué.
Non.
Parce que les gens se sont revus dans leur contexte. Parce qu'on entendait les gens qui disaient, c'est vrai, ils ont vécu la même chose que nous. Voilà, quoi.
Ouais. Et plus globalement, du coup, les retours du public, c'était quoi?
Oh, super.
Super.
On a apprécié.
Ouais.
Hein, on a apprécié d'être applaudi. Puis de voir que ça avait plu, surtout. Je pense que ça a plu.
Oui, parce que parmi nos adhérents, une adhérente notamment qui nous a dit que c'était trop court. Il aurait fallu que ce soit un petit peu plus long. Et puis d'autres personnes m'ont dit, mais il faudra refaire des choses dans ce genre-là, il faut refaire.
Ouais.
Ils ne se rendent pas compte. Hein.
C'est du travail.
C'est du boulot, oui.
Joël, toi tu as été les voir et il me semble que ça t'a vraiment plu.
Ah oui, moi ça m'a vraiment plu. Le thème d'ailleurs m'intéresse beaucoup, de, voilà, du temps qui passe et de...
Le thème c'était la vieillesse en fait au départ. Voilà.
Ouais, ouais. On n'en parle jamais, hein. Ouais. Enfin très rarement.
Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Moi j'ai été très impressionnée, je ne sais pas combien vous étiez en scène.
Six,
voilà, vous étiez six.
Donc
ans.
Quatre animatrices et deux adhérentes.
Voilà, et bon, ben ça, j'ai trouvé, voilà, que vous avez pris la scène d'une façon très intéressante, et puis pour raconter le quotidien, ce qui n'est pas évident. Alors là, dans les sons qu'on entend, c'est une répétition,
oui.
Ça n'a rien à voir avec les spectacles où, voilà, c'était
tout
quand
était
même
pas
la musique
plus fluide, ouais. Oui, et puis même, voilà, il n'y avait pas de, voilà, il y avait de la rigolade, mais pas, voilà, pas de la même façon, et puis moi, j'ai été étonnée, j'aurais jamais pensé qu'il y a autant de femmes, on en a parlé tout à l'heure, autant de femmes qui vivent seules. Et tout ce que ça implique, justement, voilà, dont on a parlé tout à l'heure, j'ai été impressionnée par ça.
Et nous, on s'en rend compte au club.
Oui.
Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de femmes seules.
Ouais. Et puis alors, moi, du coup, j'étais aussi très, très contente parce que le fait de parler de l'intime sur scène, eh bien, ça a donné une ambiance dans la salle. Et la personne qui était à côté de moi, on ne se connaissait pas, hein, eh bien, on a échangé des choses hyper intimes. Et je pense qu'on s'est échangé des choses que cette dame n'avait jamais dit avant. Et donc, ça a mis une espèce d'ambiance comme ça. C'est peut-être pour ça que les gens disent qu'il faudrait recommencer. Parce que cette liberté de parole que vous avez apportée sur le plateau, ça a donné envie aux gens qui étaient dans la salle de participer aussi et de dire des choses qui ont été contenues. Moi, je sentais cette dame, elle m'en a parlé, elle était très émue et je pense qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit avant. Donc, ça donne...
C'était libérateur.
Exactement.
Voilà, alors les gens ont ri, mais ont beaucoup parlé entre eux aussi. Donc c'est ça, en fait.
Ouais, tout à fait.
Commenter un petit peu ce
voilà. Mais en parlant de soi, du coup, on commentait pas de ce que vous disiez, mais ça mettait dans l'ambiance pour parler de soi aussi.
Ouais, vous avez créé de l'intime, en fait, de l'intimité.
Alors au départ, on était 10, hein, c'est ça, la première fois.
Je crois, oui.
Et puis, y a une personne qui a un problème de santé, et puis les autres se sont retirés tout de suite.
Bien sûr. Mais Colette. Il faut s'engager quand même. Mais
ah ben nous on était engagés, on était partis.
Ah
hein.
oui.
Mais
on n'a pu aller plus loin.
On a beaucoup douté quand même.
Mais vous êtes allés jusqu'au bout.
Et on se demandait surtout comment, enfin on pensait à nos adhérents, apprécieraient ce genre de choses.
Alors Paulette Mutin et Claudette Gadiolet, je vous remercie infiniment d'être venue en studio. C'était vraiment
très intéressant.
À vous et puis à Christine et enfin à la compagnie Diesel qui nous a bien guidés pour
ils ont encouragé tout le temps. Voilà. Les musiciens aussi, c'était super sympa. Ils nous ont vraiment tout le temps encouragés.
En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation.
C'est ce que je disais, on était très fiers de l'avoir fait.
Nous aussi, on est fiers de vous.
Avant que vous nous quittiez, parce que je crois que vous avez un rendez-vous bien précis, on va peut-être écouter Francesca Soleville qui nous raconte des choses.
Espiègle perfide, irrévérencieux, on sera professeur en incertitude, en inhabitude, en droit à l'erreur. Tant que notre cerveau sera pas liquide, c'est pas quelques rides qui nous feront la peau, on sera jamais vieux. Je casserai les frimeurs, je leur ferai des croche-pattes, j'aspergerai de picrate leurs cravates à fleurs. Les nuits de poker aux cartes vermeilles, on flambera l'oseille de l'apothicaire. Les premiers debout, les jours de tangage, les soirs de naufrage, jamais à genoux, on sera jamais vieux. On sera comédien de la pire espèce, on fera des promesses aux politiciens, on n'aura pas peur de faire la grimace aux guerriers qui passent fiers d'être vainqueurs. Et sur ces guignols, on pissera des larmes pour rouiller leurs armes au cholestérol, on sera jamais vieux. connaîtra par cœur l'air de la bêtise. On donnera des cerises au merle moqueur. Et dans le salon, même au crépuscule, il n'y aura pas de pendule qui dit oui, qui dit non. On prendra l'avion pour voir les hôtesses. Tu mettras leurs fesses, je te ferai les yeux ronds. On ne sera jamais vieux. Les yeux, ce sera pas un drame. Je poserai mon âme à tes pieds, monsieur. Tu connais le vent, il me fait des chatouilles. Et si ma dépouille par les pieds devant, on va rigoler en tête du cortège. Ça fera boule de neige dans tout le défilé. On sera jamais vieux. On sera jamais vieux.
Voilà, Francesca, elle a 84 maintenant. Voilà, et elle continue. Elle continue encore à chanter. Et puis à chanter des choses qui sont écrites maintenant. Voilà, donc c'est vraiment...
Très belle chanson, mais elle est d'où, cette personne?
Francesca Soleville, c'est une personne qui a toujours chanté. Elle a été très proche de Jean Ferrat.
D'accord.
Voilà, et c'est quelqu'un qui a toujours chanté, c'est une interprète, mais elle a toujours chanté des choses de son temps actuel, alors beaucoup les poètes, et puis les poètes de son temps, donc là ça a été une chanson qui est de Bernard Joyet, qui lui a écrite il y a peut-être 2 ou 3 ans.
On sera jamais vieux, de Francesca Soleville, c'est peut-être une question qu'on pourra poser à ton invité Joël, parce que tu reçois quelqu'un en studio également aujourd'hui, on est bien entouré. Hein.
C'est vraiment très agréable.
Le portrait.
Ben aujourd'hui, on a la chance de recevoir Germaine Brasier. Tout d'abord, est-ce que tu veux réagir à ce que tu as entendu là, de ces deux invités qu'on avait jusqu'à maintenant?
Oui, je pense avoir eu beaucoup de chances au pluriel dans ma vie. Mais par rapport à leur histoire de règles qui semblait être difficile à exprimer, j'avais déjà plus de chance qu'elle parce que j'étais à l'internat et qu'on s'apprenait beaucoup de choses entre copines. En plus, j'étais la plus jeune de la classe, donc j'étais la dernière à avoir mes règles. Alors bon, c'est un peu enquiquinant, hein, ces trucs qui nous arrivent tous les mois, mais j'étais comme les autres après, quoi. Quand c'est arrivé, entre la 4e et la 3e, eh ben, à la rentrée, j'étais comme les autres et voilà. Et je savais ce qui m'arrivait.
Germaine, moi, je te connais depuis quelques années maintenant. Hein. Je suis contente que nous puissions te recevoir aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés dans un cadre professionnel et puis nous sommes retrouvés dans des valeurs communes. Donc, du coup, on se retrouve de temps en temps ici ou là. Tu as travaillé avec le planning familial. Nous venons d'entendre un groupe de femmes qui ont parlé de leurs préoccupations, de juxtaposition de voix individuelles. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'engager à partir de l'individualité de sa vie à quelque chose de plus collectif?
Il est arrivé un événement dans ma vie où j'étais très désemparée, où je ne me voyais plus d'avenir. Et comme dans les débuts de ma vie de jeune femme et de jeune maman, j'avais consulté à Villeurbanne le planning familial. Et c'était un souvenir très, très fort. J'avais apprécié la qualité de leur écoute, que je ne trouvais pas à cette époque-là, chez des médecins ou chez d'autres professionnels. Cette empathie, façon de nous écouter avant de donner des conseils. Donc, beaucoup plus tard, quand il m'est arrivé un moment très difficile, c'est tout naturellement que j'ai rejoint les personnes qui n'étaient encore pas des copines du planning familial de Bourg-en-Bresse.
Alors, quand on parle de planning familial, hein, on fait bien toujours la distinction. Hein, c'est l'association hein, du planning, ce n'est pas le centre de planification qu'on connaît maintenant.
Oui, et c'est vrai que c'est toujours fait l'amalgame et ça me hérisse souvent. Le mouvement du planning familial est un mouvement d'éducation populaire qui a pris naissance à Grenoble et puis à Paris et qui s'est développé avec des péripéties très... très, très, très importantes et ils ont pris des risques énormes. Tandis que le centre de contraception du Pont...
Merci à vous.
Merci. ...où il y a des professionnels qui sont rétribués par...
le conseil par départemental.
Par les collectivités, voilà. Et ce n'est pas un mouvement... qui est issu d'une association qui porte les besoins d'une population. C'est très différent. Quand nous étions au planning familial sur Bourg-en-Bresse, l'antenne de Bourg-en-Bresse n'existe plus depuis plusieurs années. Le travail, c'était tout du travail de bénévoles.
Et qu'est-ce qu'on y fait dans un centre, pas dans un centre, mais au planning familial, parce que ça existe encore, hein, celui de Villeurbanne existe encore.
Villeurbanne existe.
Alors, quel conseil on peut aller
Alors,
trouver
je
là-bas?
Je peux déjà vous dire que Villeurbanne est surbooké et qu'ils n'interviennent pas sur le département de l'Ain. Ils se sont un peu spécialisés dans les problèmes des personnes migrantes, je crois. Le planning familial de Saint-Étienne, lui, s'est un peu spécialisé dans les problèmes de sexualité et handicap. On les a rencontrés récemment parce que avec l'association APAGE dont je fais partie maintenant, et d'autres associations, nous avons fait une journée le 29 novembre 2017 sur le sujet de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Donc nous avions sollicité le planning familial de Saint-Étienne, qui n'a pas pu venir parce que la personne était en congé pour longtemps. Mais c'est encore une antenne à Saint-Étienne qui a des bénévoles qui fonctionnent vraiment comme on fonctionnait sur Bourg-en-Bresse. Quoi.
Alors, en fait, le mouvement du planning familial, c'est quand même lié à tout ce qui est autour de la contraception,
oui.
Autour, en fait, de l'autonomie de la femme.
Exactement. Hein? C'est un mouvement de libération à une époque, je crois que ça remonte... les années 56-57, où il s'est développé à Grenoble, à une époque où les médecins n'avaient pas le droit de faire de l'information à la contraception, où vous étiez passible d'emprisonnement si quelqu'un vous dénonçait pour avoir fait un avortement. Voilà, dans les conditions dans lesquelles ça s'est développé, le planning familial à Grenoble, où ils ont été très habiles, parce que dans le conseil d'administration, ils avaient un médecin, ils avaient un avocat, ils avaient un juriste. Donc il a fallu tout ça, parce qu'ils sont passés plusieurs fois à deux doigts tous de se retrouver en prison.
Alors on parle d'IVG, d'avortement, quand on en parle... En ce moment, ça n'a quand même pas la même connotation de quand on en parlait il y a 40-50 ans. Parce que 40-50 ans, il n'y avait pas la contraception et donc du coup, on avait des grandes familles.
Oui. Moi, je suis petite fille d'une grand-mère qui a eu 11 grossesses, 11 enfants, de 24 à 44 ans.
Ouais. Ça remplit une vie, ça, 24 à 44
ouais,
ans.
Moi, à 22 ans, j'avais deux enfants et je me voyais déjà avoir le prix Cognac à 30 ans.
C'est-à-dire
c'est pas ce que je voulais.
Le prix Cognac, on ne connaît pas, nous, c'est quoi?
Alors, le prix Cognac, c'était attribué aux mères méritantes de familles nombreuses.
Une médaille?
C'était une médaille. C'était décerné peut-être par les mairies, peut-être par des préfets, je ne me souviens plus. Mais ce n'était vraiment pas une médaille qui m'attirait, hein. J'avais pas du tout envie de conquérir cette médaille-là. Moi, j'avais envie de faire ma vie de mère, de femme, de professionnelle, et de pas me voir imposer régulièrement une grossesse que je ne souhaitais pas.
Donc, en fait, il y a eu la bataille de l'IVG, la bataille de la contraception, qui existe encore. Mais à ton avis, les batailles que vous aviez menées quand tu étais jeune, est-ce que tu penses qu'elles sont dépassées ou est-ce que ces batailles sont encore d'actualité?
Moi, je pense qu'elles ne sont pas du tout dépassées parce que notre société en ce moment, quand même, ce n'est pas une société bien paisible. Et que je pense qu'à partir du moment où le travail se raréfie, où les conditions d'existence deviennent plus difficiles pour trop de personnes, il me semble que des voix peuvent s'élever pour magnifier le rôle de la mère de famille. C'est le plus beau métier du monde que d'élever ses enfants à la maison. Bon, les fêtes des mères, on peut imaginer, il y en a déjà une. On pourrait encore imaginer qu'on mette encore plus les projecteurs dessus pour que les femmes retournent à la maison et s'occupent avec une vie de procréation, quoi. Moi, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, ça.
Mais il y a peut-être des femmes qui sont contentes de ça. J'ai l'impression que quand on discute avec certaines jeunes, il y en a qui s'en satisfont de ce retour à la maison.
Oui, moi je dirais oui, je le crains, parce que je pense que quand on arrive en tant que femme à pas réaliser des aspirations autres que celles que la nature nous a donné de réaliser, c'est un statut, c'est une position. Moi, à mon époque, quand une fille avait un gros ventre et n'était pas mariée, elle faisait tout pour que le gros ventre n'y paraisse jamais. Heureusement, ces temps ont passé. Mais je pense qu'avoir un gros ventre, avoir un landau, avoir un bébé, avoir des cadeaux, avoir le regard de la société, ça peut remplir un temps les aspirations de femme. Je ne sais pas si ça peut remplir toute une vie.
L'important, c'est peut-être d'avoir le choix, finalement, d'être dans cette position ou pas, mais en tout cas, de pouvoir la choisir.
Oui, oui, c'est vrai. Si elle est vraiment choisie, c'est... Mais pour la choisir, il faut quand même avoir une certaine distance par rapport à ces questions-là, quoi.
Et s'il y avait, alors tu dis que le planning n'existe plus maintenant, mais...
À Bourg-en-Bresse.
C'est quoi le combat qui mène actuellement? Ça serait quoi le combat féministe à mener aujourd'hui?
Moi, je crois beaucoup à l'éducation. Il n'y ait plus de profession qui soit féminine ou masculine, que les portes soient ouvertes aussi bien aux garçons pour des professions qui étaient jugées plus convenir aux femmes et aux femmes pour des professions qui étaient jugées plus convenir aux hommes. Déjà, je pense aussi que mais ça passe par depuis tout petit, hein. Le respect de la personne, l'éducation au respect de soi-même, au respect de son corps, au respect que tout le monde doit à chacun aussi. Veiller aussi à ce que les mesures... qui accompagne, je salue en passant ce qui vient de se passer en Irlande, que ces mesures-là ne souffrent pas de retour en arrière. par rapport au remboursement de l'IVG, par rapport à l'accès à la contraception.
Donc, une vigilance, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais quand même une vigilance par rapport oui. aux acquis, et
oui.
de façon à ce qu'on les sauvegarde.
Oui.
Quand on parle de ça, on a l'impression, bon, je n'ai pas la même génération, effectivement, tu disais tout à l'heure, mmh. en aparté, mmh. qu'on représentait trois générations mmh. dans le studio, mmh. mais j'ai l'impression que quand on parle de ces thèmes par rapport aux jeunes, on a l'impression de parler de quelque chose d'un autre temps ou d'être un petit peu dépassé. Les jeunes, quand ils parlent de féminisme, j'ai l'impression qu'ils sont sur autre chose que simplement la sauvegarde de ce droit à l'IVG. Par exemple, dans, dans certains articles, on entend beaucoup parler des règles, par exemple. C'est un sujet qui est beaucoup repris par les jeunes.
Mmh, c'est vrai. La sexualité aussi.
La sexualité,
le plaisir,
ouais. mmh. comme une revendication
ouais.
de voilà, comme une revendication par comme exemple des de la prévention pour l'homosexualité, des choses qui sont pas prises en compte.
Oui. Bon ben pour les droits des personnes homosexuelles, évidemment, il y a du travail encore à faire, hein, c'est certain. Maintenant, vous parlez de revendication au plaisir. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que j'ai vécu, moi, des années de jeunesse où ce n'était pas les premières revendications. Mais ça ne va pas aussi sans responsabilité. Et je me demande si c'est toujours... si les paroles qu'on donne aux jeunes comportent aussi ces points de vue-là.
Je crois que surtout justement, dans l'éducation à la sexualité, j'ai l'impression qu'on insiste surtout sur le côté prévention, sur les maladies, etc. Et en fait, on parle pas du plaisir, mais c'est vrai qu'on en parlait dans une autre dans une autre émission.
On en
mais
parlait dans une autre émission, et c'est quand même bien une représentation ouais. de ce qu'on a de,
voilà, ouais.
de ce qui se fait. Mmh, oui.
Oui, mais je dirais que en premier, c'est les préventions en premier.
Hein. Prévention de
Eh ben, prévention, prévention des grossesses, mmh. prévention des maladies, voilà, respect de sa propre intégrité de santé et de celle de l'autre. Et puis responsabilité de pas quand on n'est pas dans ce moment de sa vie et qu'on ne souhaite pas prendre la responsabilité de pas créer un nouvel être hein, dont on pourrait pas assumer le développement à ce moment-là. Ça me paraît de premier, mais le plaisir aussi ensuite, bien sûr qu'il faut aussi revendiquer d'être enseigné à ce niveau-là. À tous les plaisirs, toutes les émotions du corps et tous les plaisirs que peut se donner une personne pour elle-même et de personnes entre elles, hein. Ça oui. Mais quand même, je mets en premier quand même prévention et responsabilité. Hein.
Donc prévention et responsabilité, c'est-à-dire avant tout
ben, se mettre en situation de ne pas transmettre ou attraper des maladies sexuellement transmissibles et pas se mettre en situation de fabriquer un nouvel être quand c'est pas le moment de le faire.
Et on a bien les moyens pour ça actuellement.
Voilà.
Et puis il y a peut-être la question du consentement aussi, qui est très actuelle et
bien sûr.
Partie aussi de la sécurité.
Mais ça fait partie de l'éducation, ça aussi, hein, du respect de soi-même, du respect de son corps, du respect de la parole de l'autre. Bien sûr, tout ça, oui, aussi.
Et maintenant, à quelques années, si on regarde en arrière, par rapport au travail que tu as fait avec le planning, mm-hmm. Qu'est-ce que tu pourrais en dire en forme de retour un petit peu en arrière et de conclusion?
Je pense que c'était un mouvement extrêmement puissant. Qui répondait à une situation des femmes qui était absolument intolérable parce que on était gouvernés par des hommes et que les hommes ils n'étaient pas très très à l'écoute des détresses des femmes que ces messieurs qui nous gouvernaient, moi je pense que ils avaient des épouses ou des maîtresses. Quand il fallait un avortement, il y avait moyen d'en trouver ailleurs. Et que les gens qui n'avaient pas les moyens de pouvoir faire un avortement, bah, on ne s'en occupait pas, quoi. Je pense que c'était un mouvement extrêmement puissant et très nécessaire dans la société. On arrivait, nous, on était 4 ou 5 au bureau du planning, qui travaillons toutes à ce moment-là. Et moi, je sais, pour ma part, on arrivait à donner 9 heures de bénévolat par semaine. On avait des messieurs, médecins, qui étaient bien contents de nous trouver quand ils se trouvaient devant une situation de grossesse non désirée et qui nous appelaient pour trouver des solutions, quoi.
C'était quand même le thème le plus important.
Ah oui,
plus,
oui, voilà. Oui.
Alors maintenant, important. Tu disais que le planning travaille, par exemple, sur Lyon beaucoup avec les migrantes parce mm-hmm. qu'effectivement, elle se retrouve dans une situation mm-hmm. qui correspondrait un petit peu à ce qui était la situation des femmes françaises
oui.
Dans ces années-là. Et puis, tu disais aussi qu'il y a un travail aussi à faire avec toutes les personnes qui sont en institution.
Oui.
Voilà. Donc, c'est la bataille, mm-hmm. bataille qui continue.
Oui, pour que toute personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa, dirons-nous,
situation
administrative, quel que soit son niveau de développement, je veux dire, c'est un droit, la vie privée, la vie affective, la vie intime, la relation. Affective et sexuelle, ça fait partie des droits qui sont inscrits dans les droits universels. Et c'est pas si simple, et je comprends, pour les familles et pour les personnes en situation de handicap, c'est pas si simple que ça de leur permettre d'accéder à ce droit.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra revoir à l'occasion,
oui.
On pourra
intéressant.
Ouais, hein. Aller voir ça de plus près, c'est vrai que c'est tout un...
C'est encore, un mouvement qui se développe beaucoup hein,
encore
en ce moment.
Encore un autre champ, encore un autre champ. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés là-dessus et puis n'hésite pas pour la suite à intervenir.
En tout cas... Je peux. En tout cas, moi, j'ai eu 2 enfants, garçons et filles, et je peux vous dire que j'étais vraiment heureuse qu'ils vivent leur début de vie affective et sexuelle autrement que ce que moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire avec de la prévention et sans la peur.
Merci.
Merci Germaine Brasier, vous étiez notre invitée du portrait et vous saluiez l'Irlande, et bien nous aussi. De quoi nous réjouir, donc le 25 mai dernier a eu lieu un référendum sur la libéralisation de l'avortement en Irlande. 66,4% de oui selon les résultats officiels publiés samedi, et puis une participation assez remarquable, 64%, donc pour un référendum c'est plutôt bon, et une participation des jeunes qui a été particulièrement élevée, 85%, voilà, c'est vraiment bien. Donc la législation irlandaise était l'une des plus restrictives d'Europe, avec l'Irlande du Nord et Malte, et les Irlandais étaient appelés à se prononcer sur l'abrogation du 8e amendement de la Constitution, qui interdisait l'avortement dans le pays, sauf en cas de danger de mort pour la mère, donnant des droits égaux au fœtus et à la mère. Voilà, donc le gouvernement présentait son projet de loi avant l'été pour le faire voter d'ici à la fin de l'année.
Cette victoire, elle fait des vagues, hein, d'ailleurs, parce que depuis, il y a l'Irlande du Nord... Hein, qui aimerait bien qu'un référendum soit aussi mis en place. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, puisque l'Irlande du Nord, c'est sous l'autorité de la reine et elle a besoin des voix des partis qui sont des partis...
Premier ministre a besoin.
Oui, Premier ministre a besoin des voix des ultra-catholiques là-bas. Voilà, donc on se retrouve, comme ce que tu disais tout à l'heure, Germaine, les femmes sont dans la même situation liée par rapport à l'avortement.
C'est ça.
Alors, de quoi nous faire bouger ici en France, hein. L'Assemblée nationale a adopté dans la nuit du 15 au 16 mai l'article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes. Et puis après, la nuit d'après, le texte tout entier. Et il y a des vives critiques qui s'élèvent contre l'article 2 qui est défendu par Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et alors, à grand renfort de communication, ce texte était censé, après tout ce qu'on a connu cet hiver, avec MeToo, avec aussi Balance ton porc, ce texte devait impulser une meilleure prise en compte des violences faites aux femmes et aux enfants. On allait voir ce qu'on allait voir. Notre président allait nous sortir une loi qui allait vraiment tenir compte de tout ça. Et puis, eh ben, ma foi, on voit. Alors, dans ce texte, il y a des mesures positives, bien sûr, comme par exemple l'allongement des délais de prescription pour les violences sur les mineurs. Ça, c'est quand même très, très, très important.
Oui.
Bon, est passée la création de l'outrage sexiste. Alors là, on se demande comment ça va vraiment être mis en place, parce qu'on se demande comment la police va pouvoir récupérer toutes les plaintes et comment la justice va pouvoir le traiter. Ça, on attend de voir. Et ce qui pose vraiment question, c'est ce que contient l'article 2, qui prévoit entre autres la création d'un audit d'atteinte sexuelle sur mineurs lorsqu'il y a pénétration, c'est-à-dire qu'il y a la création d'un délit. Et la création de ce délit, c'est le risque accru de correctionnalisation des viols sur les mineurs. Ça pose vraiment un problème. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas un délit. Soit il y avait viol, s'il y avait introduction, et dans ce cas-là, c'est un crime. Le fait de poser un délit, il y a beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ça. Il y a même une pétition qui a été lancée, qu'on peut retrouver sur le net d'ailleurs. Dans la loi, il faudrait désormais établir le discernement de l'enfant victime pour consentir à un acte sexuel. Sa vulnérabilité, enfin l'abus de cette vulnérabilité par l'agresseur, pour que l'agression soit qualifiée en viol et considérée alors comme un crime. Et alors qu'on pensait que la notion de consentement rentrait dans la loi,
oui,
eh bien, ce n'était pas constitutionnel. Ça a été retoqué par le Conseil. Et donc, du coup, on est revenu là-dessus. Et voilà, ce point de création d'un nouveau délit pose vraiment, vraiment question. Nombre d'associations refusent que le viol de mineurs soit qualifié de simple délit. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a donc une pétition là qui est en ligne et c'est très important.
Chut, Culturels.
Alors, il n'y a pas très longtemps, je croise Monique dans la rue, on papote. Elle me parle du dernier roman qu'elle a lu et le dernier roman, c'est « La femme qui ne vieillissait pas ». Là, il y a 3 jours de ça, tilt. Je me suis dit, en 3 jours, est-ce que je vais pouvoir le lire? Pile dans le thème du jour, est-ce que tu peux me le passer? Elle me l'a déposé dans ma boîte aux lettres et je l'ai lu. Alors, un petit roman, si je lis la 4e de couverture, une petite phrase. Ce qui arrive à Betty est le rêve de toutes les femmes et pourtant. Une femme qui ne vieillit pas. Il y a 2 parties dans ce livre. Il y a l'avant. L'avant, la vie de Betty avant 30 ans, l'enfance, les parents, les amants, l'amant élu, l'enfant, et puis la rencontre avec un ami photographe qui prend comme objet de travail de fixer sur papier le temps qui passe. Il choisit un certain nombre de personnes et tous les ans, à la même date, à la même heure, il leur demande de s'habiller de la même façon, il met les mêmes lumières et les photographies. Et c'est donc une galerie de portraits sur le temps qui passe. Il les photographie chaque année et Betty aussi. Et au bout de 3 ans, lorsque Betty regarde ses portraits, eh bien à l'évidence, là, le temps ne marque ni l'aspect de son visage, ni l'aspect de son corps. les mêmes photos, une immobilité, et après, c'est l'après des 30 ans. Betty, elle, reste jeune. Elle en profite pendant un certain temps, pendant quelques années. Les années passent. Alors, tous les gens qui l'entourent, l'amant, l'enfant, les amis, eux, continuent leur chemin. Et elle, elle reste au même endroit avec tous les bouleversements que ça peut apporter. Un petit roman qui est écrit par Grégoire Delacour, qui est intéressant parce qu'il explore les limites de ce rêve où de temps en temps on dit « ce temps qui passe, j'aimerais ne jamais vieillir, j'aimerais rester pareil ». On en parlait un petit peu tout à l'heure avec nos teintures pour enlever les cheveux blancs, avec les liftings que certaines personnes se font pour enlever les rides. Donc dans ce roman, ça va jusqu'au bout de ce rêve, jusqu'au bout de l'idée du jeunisme. Alors, pas un grand roman, mais quand même intéressant sur le thème.
Oui, et puis bien dans le thème de notre émission. Alors, moi, je vais vous parler de Radio B. Les élèves de première laboratoire contrôle qualité du lycée des Sardières, Léna et Tony, ont choisi de parler des femmes pendant mai 68 et surtout de leur libération. Et c'était vendredi 18 mai sur nos ondes. Donc, je pense que vous pouvez les retrouver sans problème en podcast sur notre site www.radio-b.fr.
Un tout petit flash qui est bien intéressant. Moi, je voudrais parler, comme l'été va bientôt arriver, de quelque chose qui est intéressant. C'est une newsletter qui s'appelle « Quoi de meuf ?». C'est une newsletter hebdomadaire qui parle de féminisme et de pop culture, qui est faite par deux journalistes, Clémentine Gallo et Mélanie Vanga. Et elles se font le relais d'infos, pas simplement sur l'Hexagone, et elles ont une vision internationale qui est très intéressante. Et elles disent, quand elles présentent leur newsletter, on se bat pour que toutes les discriminations entre les femmes soient reconnues, sexisme, racisme, homophobie. On garde un ton résolument positif, voire drôle, tout en évoquant les sujets qui fâchent. On relaie des liens et on les commente. On varie les formats avec des éditions spéciales. Par exemple, on en reparlait sur les règles, puisque c'est un thème qui est quelque chose qui revient très très souvent. Voilà, en tout cas un petit rendez-vous hebdomadaire le dimanche qui fait toujours plaisir.
Notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter Il n'y a pas que le 8 mars, une émission animé par Joël et Alicia. Nous remercions Pauline, notre réalisatrice. Nous remercions Germaine Brasier, qui était notre invitée. Également Paulette Mutin et Claudette Gadiolet. Et puis, parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. Parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière, une voiture et j'en passe. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour notre prochaine émission. Et Joël, je ne sais pas comment vont faire nos auditeurs et nos auditrices pendant l'été sans nous.
Bon, je pense que c'est facile. C'est l'occasion de se rendre sur le site et d'aller réécouter les émissions qu'on a fait dans l'AD. On peut les retrouver en podcast.
Voilà, je le rappelle, sur www.radio-b.fr au cas où vous ne l'entendriez pas assez. Restez à l'écoute de Radio B, à suivre à 18h Pique Bulle. Eh ben non. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée sur Radio B.